Jean-Christophe Trolichère.
Présent.
Christelle Weber devrait venir. Mais elle est un petit peu en retard. Jean-Paul Boulet.
Présent.
Daniel Nadepa.
Présent.
Raymond Ackerman.
Présent.
Anne Arter.
Présent.
Jean-Pierre Well.
Présent.
Robert Bérardi.
Présent.
Damien Ziegler, absent d'une procuration à M. Well. M. Nefta. Béatrice Huot.
Présent.
Ça, c'est Robert. Christine Pelletier. Béatrice Jean-Vaux-Pécourt est excusé. Philippe Bire. Alain Intergé. Benoît Siat est absent et donne procuration à M. Boulet. Madame Hélène Postel. Maria Guérab. Claire Wittmann. Richard Zlapla donne procuration à Anne Arter. David Lorenzi me donne procuration. Et Charlotte Manzin donne procuration à Philippe Bire. Jean-Marie Thomas. Gilbert Angel. Nadine Laurent. Michael Pernicini. Gabriel Vinck. Christophe Delcroix. Ok. Merci. Donc on attend pour Christelle, on verra. Quelques petites communications avant de commencer.
Non, c'est après. On pourra le faire après.
Donc, je voudrais commencer par quelques communications. D'abord, des points d'information pour ceux qui auraient zappé ça dans la presse ou en réunion. Vous avez vu que notre SCOTAT est tombé. C'est-à-dire qu'il a été attaqué en justice et que le TA a clairement annulé le SCOTAT 2020. Alors, pour l'instant, on doit se rapporter au SCOTAT 2014 de par la loi. Ça pose encore quelques problèmes. Un appel a été fait, parce que le SCOTAT a une véritable importance pour toutes les politiques urbaines, qu'elles soient municipales ou intercommunales, parce que c'est ce qui permet, c'est un schéma qui permet de s'ancrer pour pouvoir changer les PLU, organiser les PLU, les PLV, etc. Donc c'est assez fâcheux, mais on verra bien comment va se dérouler l'appel. Et comment on va s'organiser, en sachant qu'il va falloir, à mon sens, très rapidement relancer un nouveau SCOT pour pouvoir... Mais bon, le problème, c'est qu'un nouveau SCOT, si on le lance maintenant, il sera en application dans 2 ou 3 ans, si ça se fait pas comme ça, et que ça impacte assez lourdement 6 collectivités, hein, 6 agglomérations. Donc, voilà. Donc, je sais pas si tout le monde était au courant, maintenant, tout le monde l'est. Mais je vous donnerai mes bouts d'informations si j'en ai dans 15 jours ou au cours des prochains conseils municipaux. Alors en vrac, vous savez que depuis qu'on avait fermé les lumières la nuit, certains de nos concitoyens avaient exprimé un sentiment d'insécurité et ça avait été relayé notamment par des méfaits. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 7 véhicules à Terville qui ont perdu leur roue, enfin, qui ont braqué les 4 roues. Alors, sachez que ça n'avait strictement rien à voir avec Terville, parce que Lutte, Thionville, Cérémanche, Florange étaient touchés également, et que ça n'avait même rien à voir avec l'éclairage public, parce qu'il y a des vols qui se sont faits sous des réverbères allumés. Donc, néanmoins, j'ai demandé à la police municipale, et je tiens à les saluer, de pouvoir faire des patrouilles la nuit. C'est généralement, enfin, c'est pas leurs horaires de travail habituels. Hein. Et ils l'ont accepté. Et donc, pendant un mois et demi, une patrouille circulait la nuit. Et d'ailleurs, a mis en échec des individus qui traînaient autour des voitures. Le but, c'était, au-delà d'arrêter les malfrats Je pense que ça, c'est plutôt un travail d'enquête de la police nationale. Mon but, c'était surtout de faire savoir à ces gens qu'à Tinville, il y avait la police qui tournait de la nuit. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, en fait, c'est des petits malfrats thionvillois, assez jeunes d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande comment, à cet âge-là, on peut à la fois braquer et transporter des roues sans véhicule ou avec véhicule, mais là, c'est encore plus grave parce qu'ils n'avaient pas forcément l'âge d'avoir un permis. Bon, en tout cas, ils ont été arrêtés. Sachez, alors depuis, c'est vrai que tout s'est un peu calmé. Mais si vous voulez, après, je pense que dans le cadre du débat qui nous intéresse ce soir, on aura l'occasion peut-être de reparler de l'éclairage public en ville. Et on pourra aller plus loin sur ce sujet. Ce que je voulais vous dire également, c'est que vous donnez des nouvelles sur le chantier du troisième groupe scolaire. Donc au niveau des travaux, RAS, on est bon. On tient le timing. Et normalement, le chantier devra pouvoir ouvrir dans quelques semaines. Maintenant, on compte en semaines. Hein. Il y a une visite qui a été organisée sur le chantier, je crois. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Parce que, enfin, tout de... pour ceux qui y étaient, vous en pensez quoi ?
Bah, ce n'était pas totalement fini, mais ça s'est bien avancé. Et puis, bon, on avait eu les plans, donc on doutait un peu, mais de le voir en réel, c'est vrai qu'on se rend mieux compte de l'organisation du bâtiment. Le raconte plus sera fini, et ce sera joli.
Moi, ce qui m'a bien plu, c'est que les salles sont un peu plus grandes que les salles taille standard actuelle. J'allais dire, les tailles standard actuelles, c'est pas mieux. Et des fois, je les trouve un peu petites. Donc là, on a fait exprès d'en aller faire un peu plus grand. Et je trouve que ça peut vraiment donner un espace de travail qui est peut-être plus confortable. Par rapport à cette école, vous savez qu'on se doit de la nommer. Et donc j'ai une proposition à vous faire, on en a déjà un petit peu parlé dans le cadre d'une autre réunion, j'ai une proposition à vous faire, c'est d'appeler cette école, alors on a eu plein de propositions diverses et variées, de sources différentes d'ailleurs, très différentes, et moi je vous propose de la nommer tout simplement l'école Pilate de Rosiers, pour trois raisons. La première, c'est parce que déjà géographiquement, elle se situe au bout de la rue Pilate de Rosiers. Donc géographiquement, au sein de la commune, on voit tout de suite où elle se trouve, enfin, on doute de là où elle peut se trouver. Ensuite, Pilate de Rosiers, ben, ça a été quand même un scientifique éminent du XVIIIe siècle et un scientifique messin, enfin, mosellan, un local. Et donc ça me paraissait intéressant de donner le nom d'une école à un scientifique. C'est quand même un endroit où on est à même d'apprendre beaucoup de choses. Et puis le fait qu'il soit local, c'est pas que ce soit quelqu'un qui soit du cru, je pense que ça peut être qu'un plus. Et en plus, on a la chance d'avoir une personnalité en Moselle qui est son descendant. Monsieur Philippe Durand-Pilâtre. Donc j'ai pris le. Avant même de vous en parler, parce que sinon. Ça aurait été un peu compliqué de le rendre public. J'ai pris la liberté de l'appeler pour lui demander son avis. Et c'est pas le genre à accepter d'ailleurs. Tout est n'importe quoi par rapport au nom qu'il porte. Mais il nous a fait part, et oralement et par écrit, de l'acceptation. En tout cas, il accepte le fait qu'on utilise le nom de son aïeul pour notre prochaine école. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut être bien. Je trouve qu'à tous les points de vue, parce que sinon on a eu plein de bonnes idées d'ailleurs, hein, mais qui parfois étaient pas forcément adaptées à notre territoire. Là, ce qui est bien, c'est que quoi qu'il en soit, et au sein de notre commune et à l'extérieur de notre commune, c'est quelque chose qui me paraît cohérent. Ça n'amène pas de réflexion de votre part. Bon, alors c'est parfait. On est en train de réfléchir aussi pour donner un nom à l'école de musique. Mais on y reviendra certainement au prochain conseil municipal. Je voulais revenir ensuite sur deux autres points avant de commencer sur trois autres points avant de commencer le conseil à proprement dit. Le premier, c'est C'est la sécurisation et l'embellissement de la traversée de Terreville. Donc comme vous avez pu le constater, c'est un peu Beyrouth devant. Les travaux concernant le changement de la canalisation d'eau avancent bien. Vous voyez qu'ils ont bien éventré notre rue. Hein. Mais on va avoir une installation souterraine, une installation en eau qui sera toute neuve, et on ne peut que s'en réjouir quand on sait qu'elle datait de 1880, je crois. Comment ? 1850, excusez-moi. Donc il était peut-être temps de faire quelque chose, même si ça devait être du solide à l'époque. Il n'empêche que c'est pas plus mal qu'on puisse le faire. Néanmoins, ça va laisser des séquelles, hein, ça va laisser des traces. Et je vous le verrai tout à l'heure lors du DOB, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je vous proposerai de relancer directement les travaux de réfection totale de la rue dans la foulée, enfin dès cette année, quoi, pour refaire une rue totalement refaite, tant au niveau de la voirie que de la circulation piétonne, que de la situation de vélo. Que de l'enfouissement de réseau, etc. Et moi, ce que je vous propose, c'est que lors du prochain conseil municipal, si vous en êtes d'accord, les services nous montrent le projet tel qu'on pourrait l'envisager. Voilà. D'une manière technique et d'une manière précise, et comme ça pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Ça vous convient ? Prochain conseil municipal, ça vous va ?
J'ai juste une question par rapport aux travaux du BHMS.
Il semble oui, alors on a déjà pris contact. Si vous voulez qu'on vienne sur le CSU, ben je veux dire, alors
non, juste les travaux, parce que je sais qu'il doit
passer. En tout cas, quoi qu'il en soit, effectivement, le BHNS, toutefois, un jour il y a un BHNS, on verra, doit passer par là. Alors, le contact avec le SMITU a déjà été pris, et en fait, pour seule infrastructure concernant ce BHNS, donc la voirie, la largeur de la voirie, tout ça, ça a déjà été acté, c'était le positionnement des quais d'embarcation. Donc ça a été vu avec le SMITU, on sait où, quoi, comment. Ça, c'est bon. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura des quais. Après, est-ce que ce sera un BHNS ou pas un BHNS, ça, on verra ça plus tard. Parce que visiblement, enfin, pas visiblement, mais au SMITU, on rencontre quand même quelques difficultés notoires qui vont dans la presse. Hein, donc c'est assez connu de tous. Et visiblement, il y a des postures et des positions qui laissent à penser qu'on va prendre peut-être un peu plus de temps pour la mise en œuvre du BHNS, ce qui ne nous empêche pas de faire les infrastructures des ponts à Thionville et le nouvel entrepôt pour les bus et l'achat de bus. Ça peut encore se gérer. Par contre, le tracé en tant que tel, ça engendre quelques difficultés. Pour moi, on va être clair, pour moi, un BHNS, c'est je prends le bus, c'est comme dans tous les... C'est comme le métis à Metz ou comme un tram où je prends le bus à 7h32 à un endroit et je suis sûr d'arriver à 7h47 à ma destination. Donc en gros, il doit être un site propre. Si on veut vraiment qu'il y ait l'efficacité d'un BHNS au sens où on l'entend. Et moi, j'arrête pas de le dire depuis que je suis élu maire, mais je vois pas comment on va pouvoir garantir ça en traversant Terreville, notamment aux heures de pointe. Moi, je ne sais pas, on est tous usagers de la rue de Verdun. Il y a des heures, on sait à quelle heure on rentre dans la rue de Verdun, mais on ne sait pas trop à quelle heure on sort. Hein. Ça dépend de plein de choses. Hein. Ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre un quart d'heure. Donc ça me paraît un peu compliqué. Et tout ça, mis bout à bout, et par rapport aux difficultés que peut rencontrer le syndicat, qu'on connaît tous, il y a de plus en plus de positions qui vont vers un élargissement du temps de mise en œuvre pour bien réfléchir à tout ça. Mais pourtant, c'est pas faute de leur avoir dit, de leur avoir écrit. Mais bon, visiblement, ça c'est vraiment le problème Terreville-Terreillois, mais il y en a d'autres ailleurs. Hein. Notamment au niveau des ronds-points, notamment au niveau des routes départementales. Enfin, je veux dire, c'est pas mûr, quoi. C'est pas prêt. Donc en clair, moi ce que je vous propose, c'est que les services puissent prendre un quart d'heure, peut-être lors du prochain conseil, dans une quinzaine de jours, pour présenter dans le détail le projet rien d'extraordinaire, hein, parce que c'est un peu la poursuite de tout ce qu'on, de tout ce qu'on fait en termes de, d'infrastructure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, assez qualitatif. Donc voilà. Comme ça, ça permettra à chacun de pouvoir également dire son avis et peut-être nous donner des pistes de réflexion sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas forcément auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Un petit retour sur la 31 bis. Donc comme vous le savez, on avait voté une motion en décembre contre le tracé F10. Et motion que j'avais portée en préfecture, et j'avais très rapidement, fin décembre, on a lancé, mais ça s'est surtout mis en place début janvier, parce qu'on a laissé passer les fêtes, on a lancé une pétition. Une pétition qui, en 15 jours, 3 semaines de temps, un peu moins de 3 semaines de temps, c'est pas moins de c'est un petit peu moins de 1800 signatures qu'on a reçues. Par différents biais, que ce soit des signatures électroniques ou des signatures papier. Et lors du bilan de la concertation, j'ai déposé le tas de pétitions à monsieur le préfet. Et ça s'est totalement intégré dans le document. Pardon. Dans le document final. Et il est clair que le F10, avec notre motion qui a été reprise par l'agglomération de Thionville et du Val-de-Fensch, et qui a ensuite été reprise par le département, je pense qu'on a bien travaillé et on a bien défendu les intérêts de notre commune. Je pense pas que le F10 soit le tracé qui est le plus le vent en poupe. Moi, ma position, je l'ai défendue plusieurs fois plus vivement, c'est que je pense qu'il y a une véritable urgence de faire une 2x3 voies au nord de Thionville. Hein, Luxembourg est en train de faire une 2x3 voies. Ce serait quand même pas mal qu'on puisse avoir d'ailleurs, la 31 telle qu'elle, qui date depuis de plusieurs dizaines d'années, a besoin d'amélioration. Il faut quand même qu'on pense à toute notre population qui travaille tous les jours au Luxembourg. Maintenant, la traversée, ou le contournement, ou la traversée de Thionville, eh ben, il faut avoir le tracé qui soit le plus cohérent. Celui qui est peut-être le moins contraignant, le plus cohérent en termes d'aménagement du territoire, le moins contraignant par rapport aux habitants, et celui qui a un effet économique qui soit acceptable. Parce que, pour rappel, l'autoroute, ce sera une concession. Ce ne sera pas de l'argent qui viendra de l'État ou qui viendra de l'impôt. Ce sera une concession, donc ce sera des fonds privés. Une société privée, elle va nous mettre un péage. Et un péage, en fonction du tracé, on arrive à des sommes qui sont loin d'être neutres, hein, parce que le tracé en tunnel profond en F5, par exemple, c'est 200 euros par mois pour un travailleur frontalier pour aller travailler. Qui est quand même pas tout à fait neutre. Est-ce que ça, le rapport avantage-inconvénient, il faut peut-être le mesurer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il me semble que faire une 2x3 voies au nord de Thionville, c'est pas forcément, c'est loin d'être une mauvaise idée. Puis alors après, il y a toujours la fameuse question, les Alsaciens ont réussi à faire l'écotaxe. Donc en gros, de faire payer prioritairement ceux qui font du transit sur leur territoire. Donc la question, je l'ai posée très clairement en copie, est-ce qu'on est plus bête que les Alsaciens, quoi ? Pourquoi nous, on ne ferait pas ? On a une autoroute qui est utilisée à minima à 50%, voire même plus, par des gens qui font du transit, tout simplement du transit. Des gens qui l'utilisent sans même s'arrêter, en passant pour aller de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud. Donc ces personnes-là qui l'utilisent de manière ponctuelle ou régulière, mais en tout cas qui l'utilisent à des fins soit économiques, soit villégiature, mais d'une manière occasionnelle, ça ne me pose pas de problème qu'ils puissent payer une écotaxe. Ce qui permettrait peut-être à nos habitants d'avoir une réduction du coût pour eux, voire une extinction. En tout cas, en Alsace, ils ont réussi à le faire. Nous, on nous explique en long, en large, en travers que c'est pas possible. Je suis dubitatif. Enfin voilà. Madame Laurent.
Oui, sur la 31. Une question m'est venue. J'ai lu dans les divers documents que l'entrée actuelle qui est sur le bois de l'Étoile serait supprimée.
Oui.
Donc les gens vont sortir où?
Oui.
Les gens vont sortir à Terreville.
Alors,
les Florangeois.
Par rapport à ça, sachez
donc,
que.
Donc ça va nous faire de la circulation supplémentaire.
Alors, par rapport à ça, sachez que on a eu une grosse surprise. Parce que j'ai participé à quasiment toutes les réunions publiques. On a eu une grosse surprise à la première réunion à Florange. Parce que ce que vous dites là, nous on l'a découvert. Dans le copil, au copil, il n'était pas du tout question que l'échangeur se passe à Metzange. En gros, il est placé sur le document à Metzange. Donc en gros, pour aller chercher l'autoroute, il faut aller à Metzange. Alors que, donc en gros, à Terreville, ou tout le territoire de la Penche, voire même Thionville, tous les usagers actuels, ils auront toutes les contraintes en n'ayant aucun avantage supplémentaire avec la nouvelle infrastructure, et bien au contraire, ils seront pénalisés. Donc inutile de vous dire qu'il y a eu la bronca. Et donc, soyez rassurés, c'est quelque chose qui a été remis à l'ordre du jour. Et en fait, il y aura un échangeur au mois de Bois d'Étoile et on ne perdra rien. Voilà. Mais en tout cas, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, nous, quand on est arrivé et qu'on a vu ça, ça nous a fait tout chose. Hein. Voilà. Donc voilà, le préfet a très bien noté les choses et nous a assuré du fait qu'il y aura un échangeur au Bois d'Étoile. Ça me paraît être la moindre des choses. Donc le rapport est finalisé, sachez-le, le rapport final de l'enquête est finalisé. Donc maintenant on attend avec une impatience, avec une impatience non dissimulée, la position du préfet qui va définir un tracé sur lequel, enfin un tracé ou pas, hein, mais parce que la personne qui a géré les débats, je vous rappelle qu'au départ on était là pour discuter selon quatre variantes. Hein, le F10, le F4 tunnel profond, le F5 tunnel profond et le F5 tranchée découverte. Couverte, pardon. S'est invité une cinquième variante par l'intermédiaire du député Jacobelli, qui a dit, mais mesdames et messieurs, il y a une cinquième variante qui consisterait à rien faire. Ça a été repris en boucle par tous ceux qui ne veulent pas entendre parler d'autoroute, ce qui pour moi est complètement inconcevable qu'on ne modernise pas l'infrastructure actuelle. Ça me paraît complètement délirant. Mais après, on peut la moderniser selon les modalités que je vous ai expliquées tout à l'heure. On n'est pas obligé non plus de tout accepter. Par contre, dire qu'il ne faut rien faire, ça me paraît vraiment, alors là par contre, à limite criminelle. Limite criminelle par rapport au personnel, aux habitants qui passent 1h30 le matin, 1h30 le soir pour aller travailler. Ça me paraît complètement délirant. Ce qui ne veut pas dire qu'à côté de cette autoroute-là, il ne faut pas développer le transport en commun, il ne faut pas développer le covoiturage, il ne faut pas continuer à renforcer le télétravail, parce que ce n'est pas une autoroute qui va régler le problème, comme ce n'est pas une voie ferrée qui va régler le problème. C'est quelque chose qu'il faut voir d'une manière globale. Mais ne rien faire pour la structure, pour l'infrastructure routière, autoroutière, ça me paraît complètement criminel, je peux le dire. Parce qu'il y a quand même des gens qui passent, enfin vous imaginez, de 1h30 fois 2, ça fait 3 heures par jour, sur 200 jours. Que ça représente comme journée que vous passez tous les jours dans votre bagnole. Tout ça parce qu'il n'y a pas de décisions politiques qui sont prises sur ce territoire. Enfin, une décision qui aurait dû être prise il y a déjà 20 ans. Enfin bref. Bon, on va pas refaire le débat, sinon là pour 2 ans, au moins pour 2 heures. Donc voilà, ça je voulais vous en parler. Et puis juste un petit mot également concernant la fusion Hein, comme vous savez, il y a une discussion qui s'est ouverte entre les deux présidents de l'agglomération Port-de-France et celui du Val-de-Fensch, dans le but d'étudier la possibilité de fusionner les deux structures intercommunales en une seule, donc faire d'une... Nous, à Port-de-France, on est 13 communes, au Val-de-Fensch, ils sont 10, donc ça ferait une structure intercommunale, une communauté d'agglomération de 23 communes, ce qui n'est pas énorme au vu du nombre de communes qui existent dans plein d'autres structure intercommunale. À Metz, c'est 46, mais il y en a où ils sont plus d'une centaine. Hein. Donc à 23, c'est quand même beaucoup plus facile à diriger qu'à 110 ou à 150. Mais donc la discussion s'est surtout penchée, existe surtout au niveau des deux présidents. On nous a présenté une étude à la CA concernant la cohérence territoriale, tout ce qui pourrait être, tous les points communs qu'on pourrait avoir, enfin qu'on a, et tous les avantages qu'on pourrait avoir en termes géographiques, en termes économiques, en termes... Donc ça, c'est une première chose. Bon, voilà, c'est une étude. Et là, la semaine prochaine, je crois, on nous présente une étude financière, pour voir les répercussions qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes de chaque côté, et de voir quelles répercussions il va y avoir dans chaque structure intercommunale, et donc par rapport aux contribuables, et donc par rapport à la structure, et donc par rapport aux contribuables, éventuellement. Donc les conséquences qu'il pourrait y avoir d'adaptation par rapport aux deux structures, et ce que ça pourrait engendrer au sein de nos communes. Donc on attend ça avec sérénité, et j'avais demandé lors de ces débats à la CA de pouvoir rencontrer mes homologues du Val-de-Fensch, parce que finalement on se connaît assez peu, on se voit assez peu, et donc à force de demander, il y a une première rencontre qui a été organisée, c'est plutôt intéressant, mais pour l'instant, au vu de ce que je sens, c'est une fusion qui est vraiment en construction, et on n'est pas encore à publier les bancs. Voilà. Moi, pour moi, ma position elle est très claire. Je l'ai déjà dit moult fois. D'abord, je ne me marie pas au premier regard. Ça, c'est une formule qui a beaucoup été reprise. Mais c'est vrai, d'abord. J'aime bien savoir avec qui je me marie. J'aime bien savoir qui sont ces personnes, comment ils fonctionnent. Et puis, si on a un projet de vie en commun. Pour moi, la création d'une nouvelle structure intercommunale, une fusion, n'a d'intérêt qu'à partir du moment où il s'adosse à un projet de territoire, et que ce projet de territoire apporte concrètement des choses à nos habitants. Ou alors on dit des choses clairement, ou autrement, parce que ça peut être aussi une option, mais moi, c'est une option qui me convient beaucoup moins. C'est une fusion, donc c'est un acte politique. Le but du jeu, parce qu'en politique c'est comme ça, plus on est gros, c'est comme ça, hein. Plus on est gros, plus on a les gros bras, et plus on pèse dans les décisions du territoire. Donc ça peut être, certes, à 23 on sera plus gros, donc on pèsera plus fort, c'est vrai, mais si ça ne s'adosse pas à un véritable projet de territoire avec des propositions concrètes à apporter à nos habitants, ça me paraîtrait un peu léger. Voilà. Donc pour l'instant, on en est à se parler, on en est à en discuter, à regarder, vraiment à l'introduction, hein, à regarder les possibilités, les enjeux, mais ensuite il va falloir ensemble construire un projet de territoire. Ou pas. C'est une décision qui se crée, qui va se prendre à 23. Hein. Donc moi je ne peux pas vous dire vers quoi on va. Ce que je peux vous dire, c'est que ça, ouais, ça pose fort, ça discute, ça étudie. maintenant, on se rencontre, et j'en suis ravi. J'ai rencontré des élus charmants, et certains que je ne connaissais pas. Mais ce n'est pas pour autant que la fusion est actée au moment où je vous parle. Voilà. Par contre, je reviendrai régulièrement sur le sujet. ici, et il est possible que j'invite le président de l'agglomération, voire les deux, en tout cas moi, le président de l'agglomération de Thionville, de venir à un conseil municipal pour discuter avec vous du sujet. Qu'on puisse tous en discuter avec vous. Je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, pour l'instant, c'est pas assez mûr pour qu'on puisse parler de quoi que ce soit. Mais je ne m'interdis pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il est assez preneur. Il est assez preneur de ça. Je dis, par contre, il est ultra convaincu. Hein. Pour plein de bonnes raisons, hein, dans l'absolu. Maintenant, comment, qui, que, quoi, comment. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet, sauf si vous avez des remarques ou des choses à dire par rapport à tous ces petits sujets, ou grands sujets. Alors, on va passer à l'ordre du jour. Par l'adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 8 décembre dernier, est-ce qu'il y a des observations ? Donc, je vous propose qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. C'est quoi, ça ? Point numéro 1, communication des décisions prises en application de la délégation accordée au maire. Comment ? Ah ben pourquoi vous avez pas inversé ? C'est normal ? Non, c'est bon, il n'a pas été inversé. Comme chaque début de conseil municipal, je vous propose un secrétaire de séance en la personne de Jean-Marie Thomas. C'est Thomas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Excusez-moi.